Bonsoir et bonne semaine à tous. Plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans des inondations lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi 4 mai sur le territoire de Calais, dans la province du Sud-Kivu. D'énormes dégâts matériels sont également enregistrés. Jusque ce week-end, des centaines de corps étaient en train d'être tirés de la boue. Une première assistance en médicaments, bâches et vivres du gouvernement provincial du Sud-Kivu est arrivée sur place samedi. Une aide encore insuffisante au vu du nombre de victimes, selon l'administrateur du territoire de Calais, Maître Archimède Carrébois. D'après Rigobert Birembano Bahati, chercheur et enseignant à l'ISP Bukavu, la catastrophe naturelle qui a frappé le territoire de Calais était bel et bien prévisible et même évitable. Un rapport portant sur les dangers qui guettent les habitants de cette partie du Sud-Kivu existe depuis 10 ans, a-t-il ajouté. Quelle lecture faire de cette situation? Comment éviter ce genre de drame à l'avenir? Nous en parlons ce soir avec Tipson Idumbo, il est porte-parole du gouverneur de la province du Sud-Kivu. Monsieur Idumbo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Delphin Birimbi, membre de la société civile de Calais au Sud-Kivu. Monsieur Birimbi, bonsoir.
Bonsoir, madame, et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent à ce net moment.
Et Rigobert Birembano Bahati, chef des travaux à l'ISP Bukavu. Il est géographe et environnementaliste. Il est également expert à la protection civile. Monsieur Birembano, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Patrick Mbouli Kitanga de Kolwezi dans la province du Lualaba. Il est vrai que les inondations causent des dégâts énormes à travers le monde, mais cette situation démontre combien le service public est affaibli dans ses entrailles, qui ne fait que courir derrière les événements, laisse les gens construire n'importe où, sous l'œil impuissant de l'autorité publique, bien que les responsabilités soient partagées. Je pense que les catastrophes naturelles existent, mais il y a moyen de les prévenir en limitant très sensiblement les dégâts. À Bukavu au Sud-Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal Plus, Canal 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radio-okapi.net.
Au Sud-Kivu, la catastrophe naturelle qui a frappé le territoire de Calais fait à ce jour un bilan encore provisoire des plus de 400 morts et des milliers de disparus. Des infrastructures sont totalement détruites. Une première assistance du gouvernement central est en train d'être acheminée à Calais en ce moment. Un deuil national a été décrété ce lundi 8 mai sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Nous en parlons avec Emmanuel Elamejo Kabeti depuis Bukavu.
Bonsoir Emmanuel Elamejo.
Oui, bonjour Guy Maté.
Comment en est-on arrivé à cette situation?
Disons que c'est une catastrophe naturelle. Hein. Les fortes pluies de jeudi et vendredi de la semaine dernière ont causé des inondations dans 3 rivières qui ont débordé et emporté enfin plusieurs personnes que l'on est en train de déplorer à ce jour. C'est un phénomène naturel, hein, mais qui est plus causé par le déboisement des collines qui surplombent les villages de Bouchouchou et de Nyamukubi dans le territoire de Calais.
Et comment se présente la situation sur le plan des bilans à ce jour?
Retenez, Guy Maté, que le bilan de Calais varie chaque jour et à chaque instant, depuis le jeudi dernier jusqu'au lundi 8 mai à la mi-journée. Nos sources sur place évoquent un nombre de plus de 404 corps sans vie, repêchés, des décombres et déjà enterrés. On parle de plus de 5000 personnes encore portées disparues jusqu'à ce jour. Plusieurs infrastructures sont totalement détruites, dont les écoles, les centres de santé et surtout les routes.
Y a-t-il déjà une assistance de ce côté-là depuis tout le week-end dernier?
Oui, disons que immédiatement après, hein, le vendredi dernier, le gouverneur du Sud-Kivu s'est rendu sur les lieux du drame. Hein. Il a vite acheminé le samedi la première assistance composée des médicaments, des vivres et des non-vivres, ainsi que des bâches. L'hôpital général de Panzi affirme avoir dépêché déjà une équipe de médecins sur place pour la prise en charge de personnes blessées. Et c'est la division provinciale de la santé du Sud-Kivu qui coordonne l'action médicale en ce moment à Calais. L'équipe de la Croix-Rouge est aussi sur place, mais aussi les agents de la protection civile du Sud-Kivu. D'autres structures se mobilisent en ce moment pour apporter tant soit peu l'assistance aux personnes rescapées et autres sinistrés de Calais. La délégation du gouvernement central de Kinshasa est arrivée à Bukavu le dimanche 7 mai. Les ministres Mutinga des Affaires sociales, Rubota François du Développement rural et Christine Ndoussi de l'Emploi se rendent à Calais ce mardi 9 mai avec cette assistance.
Et pour terminer avec vous, Emmanuel Lamegi, quels sont les besoins essentiels de la population sinistrée de Calais à ce jour?
Oui, je venais de parler ce lundi avec certains habitants de Calais. Ils ont besoin immédiatement des abris pour les sinistrés, des soins médicaux pour les blessés et d'autres enfants, mais aussi des points d'eau potable. Ils ont besoin de vivres et des ustensiles de cuisine. Ils demandent surtout la délocalisation des personnes vers un autre site un peu moins dangereux, sans oublier la réhabilitation de routes et autres infrastructures qui sont à ce jour totalement détruites.
Merci à vous, Emmanuel Lamegi.
Merci, Guy Maté. Emmanuel Lamegi, Tipson Idumbo, vous êtes porte-parole du gouverneur de la province du Sud Kivu. Le bilan est-il le même ou il a évolué? On parle de plus de 400 personnes déjà enterrées, des milliers de personnes disparues. Est-ce que ça a évolué?
Merci beaucoup, madame. Nous devons avoir une pensée piégée à l'endroit de nos compatriotes qui ont disparu. Madame, il s'agit d'un spectacle affreux auquel nous avons assisté, un environnement apocalyptique, parce que au lendemain du drame, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province a conduit une forte délégation du gouvernement provincial. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, c'était vraiment un désastre. Un désastre parce que, bon, nous avons vu que des maisons étaient emportées, nous avons vu que des corps humains étaient entassés. C'était vraiment un environnement très, 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 très émouvant. Alors, la situation telle qu'elle s'est produite à Nyamukubi et à Bushushu, il y a eu le cri des rivières. Il y a la rivière Luano, il y a la rivière Nyamukubi et d'autres rivières qui provenaient de collines qui surplombent ces villages-là. Alors, quand le cri descendait avec pression, quand vous arrivez à Calais, c'est vraiment un relief un peu montagneux. Les populations habitent les pieds de montagne. Alors, les eaux qui descendaient ont charrié de grosses pierres, ont charrié de la boue qui retrouvait la population au pied des montagnes. Vraiment, c'était un environnement très, très catastrophique. Alors, et le gouverneur de province, oui, madame?
Oui, je posais la question sur le bilan. Est-ce que il y a une évolution où nous sommes sur les mêmes chiffres?
Le bilan sont changeants, madame, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a des corps, vous savez, quand il y a des corps des gens qui sont noyés dans l'eau, et trois jours après, les corps commencent à refaire la surface, et donc la comptabilité macabre se poursuit. Nous sommes effectivement à plus de 400 morts que nous déplorons tous, madame.
Alors, selon certains chercheurs, la catastrophe était prévisible, mais aucune précaution n'avait été prise. Pourquoi?
Bon, heureusement que parmi les invités, il y a un spécialiste qui pourra nous faire de la lumière de quelle manière on pouvait prévenir une catastrophe naturelle qui arrive comme ça. Ça prend tout le monde au dépourvu, comme nous l'avons connu. Mais toujours est-il que depuis un temps, je crois en 2012 ou 2013, il y avait eu encore une situation similaire. Mais dire qu'on pouvait prévenir une catastrophe de cette envergure-là, Bon, l'expert que vous avez daigné inviter pourra nous faire des explications.
Monsieur Tibson Idumbo, vous venez de nous dire, vous avez essayé de décrire un peu hein, l'environnement, le milieu dans lequel vivent ces populations de Calais. Vous dites qu'ils habitent les pieds des montagnes, les creux des montagnes. Est-ce un endroit habitable?
Bon, évidemment, c'est parce qu'il y a maintenant ces comptabilités lamentables dont nous parlions, qu'on doit être vraiment obligé de prendre des dispositions par rapport à cette situation.
Mais avant ça, vous n'avez pas vu le danger arriver?
Lorsqu'il y a eu l'afflux des réfugiés rwandais sur ces milliers là-bas, il y avait le problème de trouver le bois de chauffe. Alors, on avait coupé les bois qui se trouvaient sur des montagnes et ça a dénudé toutes les collines environnantes. C'est ce qui est à la base de cette situation parce que la population qui habite là-bas n'habite pas là aujourd'hui. Ça fait un temps suffisant qu'ils étaient là, mais cette situation-là de 1994, c'est ça qui a dénudé toutes les collines et conséquemment quand il pleut, les zones n'ont plus d'obstacles pour atteindre les bas des collines.
Oui, mais puisqu'il y avait ce danger-là, pourquoi le gouvernement provincial, par exemple, n'interdit pas à la population d'habiter ces milieux?
Bon, je crois savoir qu'en son temps, parce que nous n'étions pas encore aux affaires, en son temps, il y avait eu d'autres dispositions qui avaient été prises. On peut décider de la délocalisation des populations, mais il y a des études aussi qui doivent être faites. Il y a des chefs terriens, des propriétaires de terres qui ne sont pas aussi faciles, qui n'acceptent pas facilement de céder leurs terres. Et donc, c'est dans cette situation que nous avons été tous pris au dépourvu, madame.
Alors, qu'en est-il de l'assistance aux sinistrés? Vous avez suivi le reportage de notre confrère Emmanuel Elamegi qui a parlé avec certains sinistrés. Ils ont vraiment besoin d'assistance, ils ont besoin d'eau, des médicaments, d'abri. Qu'est-ce qui a déjà été fait concrètement?
Nous avons été sur le terrain avec son Excellence Monsieur le Gouverneur de province. Nous avons trouvé que les compatriotes manquaient de tout. Et conséquemment, les premières urgences, c'était de voir comment d'abord enterrer les morts. Parce que vous savez, il y a des morts, des personnes qui étaient ensevelies. Les corps, on les tirait des décombres. Et ça faisait que la situation, les premières urgences, c'était de voir comment enterrer ces compatriotes-là. Les corps étaient déjà en décomposition. Il fallait parer au plus pressé pour éviter d'autres sinistres qui résulteraient de la décomposition totale de corps de nos compatriotes. Alors, le gouvernement provincial, la délégation du gouvernement provincial, à la tête de laquelle son Excellence le gouverneur de province, a donné tous les frais funéraires pour que nos compatriotes soient enterrés. Après, nous avons été à l'hôpital Ioussi pour visiter les blessés. Et les blessés les plus graves ont été référés à l'hôpital général de référence de Bukavu. Et puis, un bateau a suivi après, le lendemain donc, qui avait à son bord les vivres et les non-vivres pour les premières interventions. Nous voulons ici, madame, remercier les chefs de l'État qui, en plus d'avoir présenté ses condoléances aux familles, on a décrété le deuil national et hier nous avons reçu la délégation mixte, assemblée provinciale et gouvernement central, qui a amené aussi de l'aide, et cette aide-là a déjà été acheminée à Calais. La délégation pourra suivre demain pour la distribution. Et donc, personne ne pouvait prévoir cette situation, c'est pourquoi ça s'appelle catastrophe naturelle, et merci parce que tout le monde s'est mis en action pour pouvoir survenir tant soit peu aux attentes des compatriotes qui sont sinistrés.
Delphine Birimbi, membre de la société civile de Calais au sud Kivu. Alors, comment vous vous expliquez cette situation? C'est vrai, c'est une catastrophe naturelle qui a surpris tout le monde, on ne s'y attendait pas, mais certains chercheurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, au porte-parole du gouverneur de la province du sud Kivu, certains chercheurs estiment que on pouvait éviter cette situation, ce drame.
Oui, Madame Kelly, je présente d'abord encore une fois les condoléances à toute notre population du territoire de Calais, tout en encourageant les jeunes volontaires qui repêchent et qui continuent à repêcher les corps de nos frères disparus jusqu'à présent. Mais je vais d'abord présenter le territoire de Calais pour les gens qui ne connaissent pas le territoire de Calais. Le territoire de Calais a une superficie approximative de 40 082,25 km², l'un des 8 territoires de la province du sud Kivu, dont la population du territoire est estimée à plus de 105 406 habitants. Ce territoire a connu et connaît encore des mouvements de population liés non seulement à l'insécurité grandissante, mais également à des catastrophes naturelles. L'agriculture, l'élevage, l'exploitation minière de l'or, cassitérite, colta, orphanite, tourmaline, une matière précieuse au monde, mais non profitable à la population du territoire, les petits commerces et la pêche constituent les principaux secteurs économiques du territoire de Calais. Je vais maintenant y aller comment on a enregistré le nombre de corps dans le territoire de Calais. C'était dans la nuit du 4 au 5 mai 2023 qu'une forte pluie s'est abattue sur une majeure partie du territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, étant à la base des débordements des zones de différentes rivières, comme par exemple dans le groupement de Mbinga Sud, la rivière et où les rivières Lukungula, Kabushungu, Kanyuni, sur l'axe Tchabondo et Kabushungu, les rivières Luano, Chirakara, Chishova, Nyamukubi, sur l'axe Luano, Nyamukubi, village de Bushushu. Dans le groupement de Mbinga Nord, les rivières Bigeni, Chandago, Mukwija, Kinyezire, Chibimbi, Nyamasasa, Hundu et Makelele. Dans le groupement de Buzi, les rivières Buganga et Budondo. Dans le groupement de Ziralo, il y a également les rivières Machango dans le village de Nyalugusha, rivière Nyawaronga, Kaolo et Mulunguzi. Voilà les grandes rivières qui venaient d'endeuiller le territoire de Calais.
Oui, monsieur Delphine Birimbi, alors dites-nous, j'ai posé une question, hein, on pouvait éviter cette situation, ce drame, oui ou non, selon vous?
Ce n'est pas la première catastrophe dans le territoire de Calais. Si vous vous souvenez, madame, c'était encore en octobre 2014 qu'on avait encore enregistré plus de 143 disparus dans les mêmes villages de Bushushu, précisément dans le sous-village de Rambira. Et donc, c'est les 3 à 4e catastrophes qui venaient de se produire dans les mêmes villages. Et donc, les services étatiques et ou services attitrés de l'État congolais devraient mettre des mécanismes en place pour essayer de lutter contre le débordement et ou la déforestation. Parce que si vous montez dans les collines du territoire de Calais, vous trouverez des fermes qui sont maintenant érigés par-ci, par-là, sans pour autant songer à reboiser certaines entités. Les gens également construisent dans des sites impropres, sous l'œil impuissant de l'autorité, pendant qu'il y a des lois de la République qui interdisent les constructions anarchiques, ainsi que dans des sites impropres. Et tout ça, ce sont les éléments qui venaient de causer encore que le territoire de Calais enregistre une drame qui n'a jamais été enregistré dans la République démocratique du Congo. Donc c'est la première catastrophe où on venait d'enregistrer aujourd'hui, madame, depuis la nuit du 4 au 5
mai 2023, Madame Kelly, on était à un nombre de 175 corps de nos frères qui avaient été repêchés. Et là, ce sont des corps qui étaient visibles devant le gouverneur de province, son Excellence Teongwa Bije Kasi, car il était venu compatir avec la population du territoire de Calais. Maintenant, si nous allons, depuis ce jour-là jusqu'à ce matin du 8 mai 2023, aux environs de 9h, on était à un nombre de 351 corps repêchés et enterrés dans les avant-midi. De 10h jusqu'à 18h de cette même journée, nous venons de passer à 404 corps enterrés. Et à l'heure où nous sommes en train d'intervenir sur la radio Okapi, il y a déjà 7 corps qui venaient de sortir cette nuit. Et donc, le bilan serait fortement lourd. Et je vais vous dire que le territoire de Calais est présentement sous perfusion maintenant.
Peut-on dire que les responsabilités sont partagées entre le gouvernement, les dirigeants et vous, la population?
Nous, la population, bien sûr, les responsabilités peuvent ou ne pas être partagées, mais l'autorité et ou les services attitrés ont le rôle de sensibiliser les populations à travers les mécanismes qui sont mis en place par l'État congolais. Bien sûr, nous devons aussi aider, c'est ça notre rôle comme acteurs de la société civile du territoire de Calais, et nous le faisons comme d'habitude, mais quand même c'est l'autorité et ou ces services qui devraient faire tous les moyens possibles pour faire asseoir les textes de l'État congolais sur toute l'étendue du territoire de Calais, sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu, même dans la RDC d'une manière générale. Puis ce n'est pas seulement à Calais où on enregistre des catastrophes, mais quand nous parlons de Calais, nous sommes en train de donner les responsabilités à l'État congolais, bien sûr à nous comme population, qui construisons sur des sites impropres, sous l'œil impuissant de l'autorité, comme je venais de le dire.
Des normes dégâts matériels sont également enregistrées. Alors, la population est-elle prise en charge par le gouvernement provincial ou le gouvernement central? Vous qui êtes sur place à Calais, comment la population vit-elle?
Je vais vous dire, madame, que cette catastrophe laisse plusieurs orphelins dans le territoire de Calais. Je venais de vous donner le bilan de 404 déjà depuis cette soirée. On est maintenant à 5255 personnes disparues. Si vous passez dans des structures sanitaires, on a enregistré pas mal plusieurs blessés. Sur l'axe Youssi, à l'hôpital général de Youssi, on a enregistré 52 blessés qui sont hospitalisés là-bas. Si vous passez sur l'axe Bouchouchou, là c'est au centre de santé de Bouchouchou, il y a 54 blessés. Si vous passez au centre hospitalier de Mumbiri, à Nyamuku, Bichemouini, là il y a 60 blessés. Si vous allez sur l'axe Louchebere, au CS Louchebere, il y a 26 blessés. Et si vous arrivez sur le centre hospitalier de Nyabibwe, il y a 8 blessés. Et nous, on a demandé au gouvernement, lors de l'arrivée de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Sud-Kivu, de faire tous les moyens possibles pour évacuer tous ces malades vers les structures spécialisées de la province du Sud-Kivu où ils pourront suivre les soins médicaux. Mais fort malheureusement, ces personnes continuent à croupir dans les mêmes structures sanitaires où il n'y a plus de médicaments, ils ont vidé leurs stocks. Et voilà, on venait d'enregistrer plusieurs morts. Si vous allez sur l'axe Nyamukubi, à l'hôpital, au centre hospitalier de Mumbiri,
donc
on
l'aide est insuffisante. Il faut renforcer, il faut ajouter de l'aide, l'aide que le gouvernement provincial avait déjà donnée pour les sinistrés.
C'est maintenant le samedi 6 mai 2023 que le gouverneur de province a dépêché sur place un lot de médicaments et une quantité de vivres. Et voilà, ces vivres et où les médicaments ne sont pas encore suffisants par rapport au nombre de malades, mais aussi au nombre de populations à travers les différentes entités que je venais de vous citer. Mm-hmm. Et donc, ça demande encore une mobilisation générale de la part du gouvernement central, mais aussi des différents partenaires du gouvernement congolais pour essayer de venir en aide. à toutes ces populations.
On vous garde encore dans cette émission, Delphine Birimbi. Il y a beaucoup de questions, hein. On va revenir vers vous. Le temps pour nous de donner la parole à Rigobert Birimbano, qui est chef des travaux à l'ISP Bukavu. Il est géographe et environnementaliste. Il est également expert à la protection civile, Rigobert Birimbano. Alors, vous avez déclaré que cette situation était prévisible et même évitable. Comment cela?
Oui, en fait, la situation était prévisible, hein, parce que depuis que le gouvernement de province nous a nommé experts dans la gestion des risques de catastrophes naturelles, ça fait depuis 2013, hein, ça fait 10 ans que nous sommes en service et nous menons des études sur le terrain avec des collègues de l'IOB, des géologues. Depuis ce temps-là, nous avons eu à établir un répertoire. Ce répertoire, je pense, c'est un élément important qui devait nous prévenir des dangers qui nous arrivent. Ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Et d'ailleurs, nous avons fait une cartographie qui prouve que dans les manifestations des différentes catastrophes naturelles, c'est plus le territoire de Walungu et des quartiers qui sont à haut risque, particulièrement pour les aléas climatiques. Ou pendant ces temps, 2013 en 2006, sur 78 cas enregistrés, il y en avait eu 46 dans les deux territoires. Donc à Walungu et à Calais. Et ce problème-là, c'est lié aux pluies diluviennes qui provoquent les inondations. Et depuis ces temps-là, ça fait quand même 10 ans, on aurait pu prendre en référence ces éléments-là et commencer à prévenir, parce que les études qui ont été faites ont prouvé que les habitants de ce coin, du territoire de Calais, habitent dans le bassin versant des rivières. Et malheureusement, ils habitent les lits majeurs des rivières. C'est-à-dire que ces lits majeurs, pendant les fortes pluies, sont envahis par les pluies. Et si aujourd'hui on parle de catastrophe, c'est parce qu'il y a dégâts matériels et dégâts humains. S'il n'y avait personne dans ces bassins versants, il n'y aurait même pas, on n'aurait pas l'occasion de parler de catastrophe. Les gens doivent savoir quand est-ce qu'on définit une catastrophe. Une catastrophe naturelle, c'est quand un aléa climatique ou n'importe quel aléa provoque des dégâts matériels et des dégâts humains. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans le cas des catastrophes parce qu'on n'a pas intégré dans la politique d'ensemble de l'aménagement du territoire. Nous nous sommes limités à des ateliers de formation, mais la suite n'a pas suivi. On a été à Kabale, on a été à Ouvira, et on est revenu sur l'élaboration des places, donc des plans locaux d'aménagement du territoire. Au moins, ces formations-là ont été faites avec les responsables des différents territoires. Nous pensions qu'il y aurait un autre pas qu'on aurait réalisé. Et si on faisait ce pas-là, et aller dans l'avantage que nous offre l'aménagement du territoire, parce que nous passerons à l'étape de choix des sites appropriés pour les constructions, bon, ces sites-là sont connus. Bien sûr, comme le porte-parole du mouvement provincial l'a dit, Dirson Idumbo, que les propriétaires terriens, parfois, ils sont très réfractaires dans de tels projets, mais c'est question de faire des contreparties. On pouvait se convenir avec eux et choisir, parce qu'ils occupent, malheureusement, ils occupent les meilleures terres qui sont sur le replat, et ce sont ces meilleures terres, normalement, qui devaient recevoir les populations pour éviter que de tels cas de catastrophes nous arrivent. L'aménagement du territoire, ce n'est pas une question d'un individu. Ce sont toutes les communautés qui doivent se mettre autour d'une table, on se concerte et on se convient de ce qu'on doit faire. Et nous pensions que pendant les 10 ans, on aurait à occuper ces sites hein, appropriés pour les constructions, que de laisser l'aménagement du territoire entre les mains de qui veut aménager. Chacun aménage comme il le veut et à sa façon. Et en réalité, le site lui-même, c'est un site à problème. Nous sommes sur un site montagneux, avec une dénivellation de plus de 1000 mètres d'altitude. Le lac Kivu se trouve à 1460, et on peut aller comme ça jusqu'à 2600, parfois 2900 mètres d'altitude. Donc des dénivellations très importantes qui provoquent des pentes très élevées, de telle manière que quand on déboise, les eaux qui tombent, les eaux de pluie, ruissellent à très grande vitesse et rejoignent les bassins versants et cela provoque les inondations. La fois passée, on a échangé avec Emmanuel de Monisco de Radio Okapi Bukavu. Je lui ai dit, la végétation joue un rôle très important dans l'absorption des eaux de pluie. De deux manières. Tout d'abord, l'arbre lui-même, qui va jouer le rôle de réceptacle pour bloquer les eaux de pluie, que les eaux de pluie n'atteignent le sol. Les eaux dégoulinent le long de la tige et arrivent au niveau de racines en n'ayant plus de vitesse. Mais un autre avantage, c'est que les feuilles des arbres tombent et pourrissent. Et quand ces feuilles des arbres tombent et pourrissent, ou sèchent, elles ont l'avantage de constituer une litière qui absorbe aussi une grande quantité d'eau et ainsi peut contrecarrer toutes les formes de ruissellement qu'on peut observer. Mais malheureusement, comme les déclarations qui viennent d'être faites maintenant, on constate que c'est dans les hauteurs maintenant qu'on a installé les fermes, qu'on a déboisé et que les gens construisent. Et en construisant,
et le gouvernement n'intervient pas, ne fait rien pour empêcher cela.
Oui, il y a moyen d'empêcher cela. C'est-à-dire, c'est faire tout d'abord le choix des sites appropriés pour les constructions. On peut aussi choisir les sites appropriés pour recevoir les fermes. Imaginez-vous qu'on détruise les forêts pour y mettre les fermes. Et alors qu'en contrebas, parce que les gens occupent les piémonts, c'est qu'au-dessus, quand on détruit, on déboise, c'est-à-dire on favorise le ruissellement. Et ces ruissellements vont rejoindre, vont atteindre les populations qui occupent les bassins versants, qui sont dans les lits majeurs de rivières. Et depuis qu'on a détruit, c'est ce que nous observons depuis 2013. Ce n'est pas le seul cas aujourd'hui, mais malheureusement, ce cas a pris maintenant énormément d'ampleur et aujourd'hui nous sommes en train de nous plaindre d'avoir perdu 404 personnes et d'autres, les uns parlent de 2500 et d'autres de 5000 disparus. Mais si on n'ouvre pas l'œil et le bon, nous risquons d'en perdre davantage parce que un élément important qu'il faudrait retenir, dans le terre de l'Est du Congo, les densités humaines ne font que s'accroître. Aujourd'hui, il y a des coins qui ont dépassé 400 habitants au kilomètre carré. Et sans des solutions qui seraient amenées, des solutions, je dis bien durables, qui seraient amenées par l'aménagement du territoire, nous allons toujours déplorer de tels cas. Parce que les populations villageoises risquent d'être abandonnées à leur propre sol. Chacun fait ce qu'il veut. Au lieu de demander aux experts d'intervenir, et à ses propriétaires terriens de céder ces terres pour le bien de la communauté, c'est bien d'avoir des terres. C'est mieux encore d'y mettre nos frais que d'y mettre les vaches, que d'y mettre quelques boutures de manioc et de les exposer ainsi à la mort.
Merci Rigobert Mbirembano. Gibson Indumbo, vous avez suivi les explications de notre géographe, Rigobert Mbirembano. Avant de réagir à son analyse, on va prendre d'abord ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler pour participer aussi à cette émission. On va se rendre dans la ville de Kananga pour écouter cet auditeur.
Maître Alitor Mampouya, avocat à partir de la ville de Kananga. La problématique de la résurgence des catastrophes dans notre pays fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Cela résulte du défaut de prévoyance. Et pourtant, gouverner veut dire prévenir. Mais malheureusement, dans la gestion de l'homme noir, il n'y a pas de prévoyance. Et chaque fois, on est toujours en train d'enregistrer des morts en masse qu'on aurait dû éviter si on avait prévenu. Le plus important n'est pas d'apporter l'assistance aux victimes, mais plutôt de prendre des dispositions pour que pareille catastrophe ne puisse plus faire des morts dans les jours à venir.
Gibson Indumbo.
Allô?
Oui, monsieur Indumbo, vous avez suivi la réaction de l'auditeur de Kananga.
Bon, j'ai suivi difficilement l'auditeur qui venait d'intervenir.
Alors, il aborde dans le même sens que Rigobert Mbirembano pour dire qu'on aurait pu éviter cette catastrophe. Gouverner, c'est prévoir. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'État devait prendre, prendre en compte toutes les alertes faites par les experts pour éviter cette catastrophe.
Merci beaucoup. Bon, je ne saurais pas revenir sur les premières catastrophes, parce qu'est-il qu'en ce moment-là, nous n'étions pas aux affaires. C'est pas comment les autorités en son temps avaient géré ces catastrophes-là. Mais Rigobert, en tant qu'expert, a donné quand même des éléments importants. Nous avons besoin de toutes ces intelligences pour pouvoir solutionner les problèmes face auxquels nous nous retrouvons. Madame, l'autre fois, donc quand on échangeait au début, j'ai compris que, et c'est vous d'ailleurs qui l'avez dit, les responsabilités sont partagées. Nous ne pouvons pas pour autant dédouaner l'État, dire que bon, l'État a été totalement responsable par rapport à cette situation. Nous pouvons reconnaître qu'il y a eu des défaillances ici et là. Comme Rigobert l'a dit, la population a aussi sa part de responsabilité. Nous ne venons pas à une population qui a été, dont les vies des frères et sœurs ont été fauchées. Nous ne venons pas vraiment à augmenter sur la charge qu'on a, que cette population a. Mais le moment venu, nous pouvons établir les responsabilités et nous partager les rôles que chaque structure devra participer. L'État n'est pas vraiment très, très enchanté de ce qui est arrivé, madame. Donc, vous avez vu comment l'État s'est mobilisé, aussi bien la province que le gouvernement central. Mais partout où nous sommes passés...
L'État s'est mobilisé après la catastrphe, Monsieur Tibson Indumbo. Il y a des gens, plusieurs personnes qui estiment que l'État congolais n'a pas une politique claire en matière de lotissement.
Bon, c'est un problème hérité et auquel on doit autant que faire se peut trouver une solution, madame. Et donc les défaillances, s'il y en a, elles n'ont pas commencé aujourd'hui, mais au moins pour le moment, on est en train de voir dans la mesure du possible comment solutionner. Il y a l'État, madame, parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Et une catastrophe naturelle, la catastrophe est imprévisible. Elle est arrivée, bien sûr, les chercheurs venaient de parler des alertes par le passé. Bon, à mon sens, le moment est arrivé où nous devons mutualiser les efforts. Il y a les amis de la société civile qui sont aux côtés de la population. Il y a Robert qui est un expert et le gouvernement pour voir qu'est-ce que nous devons ensemble faire pour éviter que pareille situation ne se reproduise.
Alors, est-ce qu'au niveau de la province du Sud Kivu, vous avez une structure pour la gestion de ce genre de catastrophes?
Ça existe, madame. Ça existe, il y a des...
Elle est opérationnelle?
Elle est opérationnelle, mais parfois avec des difficultés de fonctionnement. C'est tout ça, les problèmes. Les structures peuvent être là, mais elles éprouvent par moments de difficultés. Mais aussi, les scientifiques devraient mettre à la disposition du gouvernement le résultat de leurs recherches. Ils font des recherches, parfois c'est des recherches qu'on remet à des ONG, on ne sait pas trop ce qu'elles en font, mais on ne voit pas vraiment des scientifiques qui amènent des propositions aux problèmes au gouvernement.
Alors, excusez-moi, il y a une petite question d'un auditeur qui a préféré garder l'anonymat. Il dit les Congolais se sont indignés de voir comment les victimes ont été enterrées dans une fosse commune. Est-ce qu'il n'y avait pas des cercueils pour mettre tous ces corps?
Madame, nous sommes arrivés avec le gouverneur, c'était le lendemain de la catastrophe, le vendredi. C'est bien bon de parler à distance, à 2000 kilomètres, dans son salon, on zappe sa télévision, on écrit sur WhatsApp, mais il fallait être sur terrain. Il y a des médecins de la division provinciale de la santé qui ont été réquisitionnés pour secourir leurs collègues qui étaient débordés. Nous sommes arrivés, madame. C'était vraiment un environnement terrible. Nous avons vu des corps. Vous savez, quand les eaux ont charrié des pierres et des boues, ces eaux-là et les pierres et les boues ont enseveli nos compatriotes. Les corps étaient tirés du fond des boues. Imaginez-vous cet environnement-là.
quand nous entrions là où les corps étaient entreposés, il fallait prendre des masques parce que, effectivement, les corps commençaient à se détériorer.
Merci.
Et nous avons recueilli les avis des médecins qui étaient là, qui nous ont alertés. S'il fallait attendre qu'on fabrique 300 cercueils, encore qu'à Calais, on ne peut pas en trouver, il fallait revenir à Bukavu. La situation s'empirerait que celle que nous avons connaissance.
Merci, M. Dibson.
Le gouvernement.
On a compris l'explication.
Pour pouvoir parler à cette situation.
Merci beaucoup. Delphine Birimbi, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Bukavu.
Je suis Magdalena Jules, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Donc le drame qui s'est passé, qui s'est produit à Calais est déplorable. Cette catastrophe était prévisible, mais c'est l'incurie des autorités congolaises au niveau national et celles du niveau provincial qui n'ont aucune stratégie pour épargner les populations du Sud Kivu et celles des autres provinces de ce genre de catastrophe. Je pense que les Congolais et leurs dirigeants agissent aux effets et non aux causes. Ce qui est déplorable dans cette situation, c'est la manière dont les cérémonies funéraires se sont déroulées, donc à Calais. On dirait que ce sont les terroristes qui sont enterrés dans un pays étranger.
Delphine Birimbi. Alors, le porte-parole du gouverneur a expliqué pourquoi l'enterrement s'est passé de cette façon, de cette manière. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que société civile, vous proposez pour éviter ce genre de drame à l'avenir?
Oui, Madame Kelly, avant de...
Essayez de vous résumer parce que nous tendons vraiment vers la fin de l'émission.
Exactement, Madame Kelly, avant de répondre à la question de Monsieur Gilles, je vais revenir sur la réponse du porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu par rapport à l'enterrement des corps de nos frères. Ce qui est vrai, les corps étaient déjà en état de décomposition. Et selon les experts médicaux, ils avaient proposé qu'on enterre les corps à ce moment-là. Mais si on revient sur les réalités, moi, je suis en train de me demander avec même toute la population de notre territoire. Nous continuons à déplorer cet enterrement des corps de nos frères, contrairement à celui de Kinshasa, des inondations de la fois passée. Hein, l'année passée, il y a eu des inondations à Kinshasa où on a enregistré plus de centaines de morts. Mais on a vu sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, comment les gens... Hein, la dignité humaine était quand même respectée. Mais maintenant, je me demande, est-ce que les citoyens de Kinshasa ne sont pas des Congolais comme les citoyens de Calais, pour qu'on ne puisse pas prendre aussi les citoyens de Calais comme une population parmi la population congolaise? Et donc, nous, ça n'a pas été vraiment les bienvenus pour nous par rapport à ce que nous, on a vu l'année passée pour la question de Kinshasa, quand on a enterré les victimes des inondations de l'année passée.
Alors, qu'est-ce que vous proposez pour éviter ce genre de drame à l'avenir?
Ce que nous proposons, d'ailleurs, nous, on a d'abord on a fustigé la façon dont le chef de l'État n'a pas été sur le terrain. Nous regrettons de ça. Quand on enregistre une catastrophe du genre dans un territoire comme Calais, où on arrive à dépêcher à repêcher plutôt plus de 404 corps, et que c'est un bilan provisoire avec plus de 5255 personnes disparues.
Vous ne faites pas de propositions, monsieur
Birimbi. Même le président de la République n'arrive sur le terrain et compatir avec son peuple, accompagné du premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée
nationale.
Monsieur
Birimbi, s'il vous plaît, donc, vos propositions, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Est-ce qu'il faut délocaliser la population? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, selon vous?
Je vais y aller vite, vite, madame. Ce que nous avons déjà proposé au gouvernement central, nous avons demandé qu'on délocalise la population du village de Bouchouchou vers les sites appropriés pour éviter de connaître encore des catastrophes déjà. Mais également, nous avons demandé et ou sollicité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de faire une descente sur le terrain dans notre chef territoire de Calais,
pour essayer de s'enquérir de la situation, mais également compatir avec sa population. Mais aussi, nous avons demandé au gouvernement congolais de réhabiliter d'une manière urgente les routes. Vous trouvez un territoire comme Calais qui a eu la chance d'être traversé par des routes nationales, à l'occurrence de la RN2 Bukavu-Goma et RN3 Bukavu-Kisangani. Mais madame, si vous passez sur la RN2 Bukavu-Goma, les tronçons Makelele, Hundu, Nyamasasa, Chibimbi, Kinyezire, Bigeni,
rapidement, s'il vous plaît.
Nyamishonga, chez les Français, jusqu'à Luzira. Là, on n'en parle pas. C'est comme une route qui n'existe plus. Et si vous allez sur la RN3,
c'est pareil.
Tronçon, Parc national de Kahuzi-Biega, Bitale, Boulambika, jusqu'à Hombo, madame, c'est très catastrophique. Et donc, le gouvernement doit tout faire pour essayer de réhabiliter ces routes dans un délai raisonnable.
Merci.
Et ça pourra aider. Mais aussi, le chef de l'État nous avait promis, en date du 18 avril 2019, quand il était venu compatir avec la population du territoire de Calais, après la noyade qui avait coûté la vie à plus de 114 disparus, il avait promis de construire 4 ports dans le territoire de Calais et disponibiliser des bateaux pour essayer de faire des navettes sur le lac Kivu.
Et vous attendez toujours.
Le chef de l'État, nous félicitons le chef de l'État, les 4 quais était déjà construit, mais fort malheureusement jusqu'en présent, les bateaux n'ont jamais été disponibles.
Merci Delpha, merci Delpha Birimbi, on n'a plus.
C'est la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 3. Il y a des partenaires bas de Banque mondiale. Maintenant, des promesses et des promesses.
Merci Delpha, on n'a plus.
On
n'a plus.
Qu'on impose
on
également
a,
à la
on
population
plus beaucoup de temps.
Avec des
merci,
conditions
merci Delpha Birimbi.
Extrêmement très difficile.
Rigobert Birembano, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. On va quand même prendre très rapidement ce dernier auditeur qui est en train d'appeler.
Ignace Ofumba, à partir du Bundu dans la province de la Tchopo. J'ai compati ensemble avec les familles andéennes suite à cette catastrophe calamiteuse naturelle qui a frappé nos compatriotes de Calais et dans le sud Kivu. À mon humble avis, Calais sous sa forme devrait être une cité inhabitée jusqu'à nouvel ordre. Plus de 40 morts dans une seule nuit, c'est vraiment catastrophique. La faute n'incombe à personne car la catastrophe est naturelle et était inévitable. Que le gouvernement central prenne des mesures très sévères pour délocaliser les restes de la population se trouvant dans cette cité, surtout là où les drames étaient passés. Des vagues inévitables, nul n'est témis. Paix aux âmes perdues.
Rigobert Birembano, les propositions. Que pensez-vous des propositions de Ignace qui nous a appelé depuis Ubundu? Soyez concis, s'il vous plaît.
Oui, bon, effectivement, il rentre dans les objectifs de l'aménagement du territoire, ou les impératifs de l'aménagement du territoire. C'est une bonne chose. Ayons le temps d'apprendre de nos erreurs, et l'aménagement du territoire, en apprenant de nos erreurs demain, nous allons éviter d'entrer encore dans les deuils. C'est bien que nous prions les deuils aujourd'hui, c'est ce que je conseille comme une erreur, mais que ce soit une leçon pour nous, que demain nous ne connaissions plus d'autres deuils. Si on dit que ce n'était pas prévisible, c'était prévisible. Et dans l'aménagement du territoire, quand on dit que c'est prévisible, mettons toutes les synergies en marche, de telle manière que nous puissions à l'avenir éviter de tels cas, où nous perdons en moins de 2 journées, 404 personnes, et à peu près 5000 disparus. Il y a moyen d'éviter cela si nous nous mettons ensemble et nous passons à une bonne planification. Ça pourra nous sauver. Ce n'est pas seulement à Calais. C'est partout, presque au sud Kivu, dans les sites montagneux, que nous connaissons de tels problèmes. Comme vous pouvez vous en souvenir, la ville d'Ouvira, il y avait eu un cas comme ça. Merci. Un problème très sérieux. Donc à nous de penser à cet aménagement du territoire et ça pourra nous aider à résoudre ces problèmes avant que les deux ne nous arrivent.
Merci Rigobert Birembano. Tipsonine Doumbon, 30 secondes, votre conclusion.
Ma conclusion, madame, c'est que partout où nous sommes passés, la population a demandé sa délocalisation et nous pensons que c'est la solution la plus durable. Et l'État congolais, aussi bien que la province du Sud Kivu, vont se mettre à travailler sur cette possibilité de délocaliser la population. Ça ne sert à rien de rester là et de venir d'amener des aides. Il faut qu'on trouve une solution définitive à cette question.
Merci.
Je voudrais dire au monsieur de la société civile. Allô?
On n'a plus beaucoup de temps, désolé monsieur Idumbo, l'émission est finie, merci à Guy Maté qui l'a réalisé et Nola Madimba qui nous a aidé à préparer ce magazine. Pierre était à la mise en onde au micro, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.